France Culture.
Deuxième temps de notre semaine spéciale dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'Ukraine. Jusqu'à jeudi, nous explorons, grâce à l'analyse de nombreux historiennes et historiens, les aléas de ce pays. Hier, l'historien Daniel Beauvois nous expliquait comment est né le sentiment national ukrainien entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Demain, nous traiterons de la Seconde Guerre mondiale dans cette région du monde. Et jeudi, de la période post-soviétique jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons nous pencher avec Anaïs Quin, qui a préparé cette émission avec nous, sur la terrible période qui va de la guerre civile à la fin de la Première Guerre mondiale, donc jusqu'à la grande famine de 1933. Nous le ferons à l'aide d'archives et de textes lus et des analyses également de Nicolas Vert. Il est chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps présent au CNRS. Vous avez déjà pu l'entendre chez Jean-Noël Jeannet dans Concordance des Temps sur cette histoire de l'Ukraine. Nicolas Vert est un des grands spécialistes de l'histoire de l'URSS et auteur, entre autres, d'un livre-disque sur la grande famine en Ukraine dans la collection De Vive Voix, dont on entendra quelques extraits dans cette émission. Thomas Chopard est également avec nous. Il est doctorant en histoire au Centre d'études russes, caucasiens et centre européen de l'École des hautes études en sciences sociales. Et il termine sa thèse sur les violences, justement, pendant la guerre civile en Ukraine. Il nous expliquera quel était le type de violence et surtout ce qu'on appelle cette guerre civile en Ukraine. Un extrait de La Garde Blanche de Mikhaïl Bulgakov pour commencer cette émission. Le grand auteur, donc, Mikhaïl Bulgakov, écrit ceci dans La Garde Blanche. Il y avait, donc, à la fin de la guerre, des dizaines de milliers de gens qui rentraient de la guerre et savaient tenir un fusil. Des centaines de milliers de fusils enterrés, cachés dans les granges et les celliers et non rendus en dépit des jugements sommaires et des tribunaux expéditifs des Allemands. En dépit des baguettes de fusils et des tirs de shrapnel, des millions de cartouches enfouies sous la terre en question, des fusils de 7,66 dans un village sur 5 et des mitrailleuses dans un village sur 2, des dépôts d'armes dans toutes les bourgades, des magasins d'habillement pleins de capotes et de bonnets fourrés. Est-ce qu'il est bon de commencer par un texte comme celui-ci sur Thomas Chopard pour évoquer cette fin de Première Guerre mondiale dans cette région d'Ukraine et raconter pourquoi justement c'est une fin de guerre armée qui va voir s'opposer dans une guerre civile assez sanglante des forces divergentes, pourrait-on dire, à la fois russes blancs, russes soviétiques, communistes, verts, c'est le parti en particulier de... C'est comme ça qu'on qualifie des paysans qui se sont soulevés dans une insurrection armée avec différentes bandes qui courent toute l'Ukraine. Est-ce qu'il est bon de commencer par un texte comme celui de Bulgakov ?
Il est toujours bon de commencer par Bulgakov, qui est un des plus grands auteurs probablement de cette période et qui souligne vraiment la façon dont en Ukraine, la Première Guerre mondiale ne s'est au fond jamais finie, ou en tout cas s'est imbriquée avec une guerre civile, puisqu'on a généralement tendance à considérer que les combats cessent dans l'ancien empire russe avec la révolution, puis avec les différents cessez-le-feu de la fin 1917. En Ukraine, ce n'est vraiment pas du tout le cas, puisque l'armée allemande occupe le pays suite au traité de Brest-Litovsk en mars 1918. Et l'armée tsariste en décomposition, qui est rapidement débandée par le jeune pouvoir soviétique, se dissout en Ukraine et les soldats rentrent chez eux, notamment dans leur village, avec des armes et surtout un savoir-faire militaire et une disposition à la violence armée qui est sans commune mesure.
Nicolas Vert, sur ce point ?
Oui, bien sûr, c'est très très important. Enfin, justement, je parle d'une guerre de 8 ans entre 1914 et 22, et c'est vrai que c'est en Ukraine que le phénomène est le plus remarquable. Georges Mossé parlait de brutalisation des sociétés européennes, mais il consacre dans son livre magnifique fort peu de place au front de l'Est, mais c'est un exemple extrême de brutalisation à la fois guerrière, révolutionnaire et nationale.
Alors, on expliquait hier avec Daniel Beauvois, Thomas Chopard, comment effectivement cette Ukraine avait été longtemps séparée en deux, la Galicie du côté de l'Empire austro-hongrois, et puis la Pologne et la Lituanie à une autre époque, et puis ensuite évidemment l'Empire russe. Qu'est-ce qui se passe avec cette désagrégation justement de la fin de la Première Guerre mondiale et comment tout cela se recompose-t-il? Est-ce qu'on peut essayer brièvement et de façon simple pour nos auditeurs d'expliquer quelles sont les forces en présence et comment elles parcourent ce territoire ukrainien en tous sens dans ces années entre 1918, donc vous l'avez expliqué, des Allemands arrivent à Kiev en particulier, imposent leur ordre à Kiev en nommant un hetman, donc un personnage qui fait référence à l'histoire ancienne de l'Ukraine, mais qui est imposé par les Allemands. Les Allemands sont là, mais qui est encore dans cette région du monde et comment tout cela s'organise-t-il?
Alors le hetman Skoropadsky prend lui-même la succession d'un pouvoir ukrainien nationaliste qui avait réussi à s'installer à Kiev au début de l'année 1918, qu'on appelle généralement le pouvoir de la Rada, donc de l'Assemblée, qui sera ensuite uniquement réduit au pouvoir d'un directoire essentiellement militaire. Et l'Ukraine est surtout en 1919 le lieu d'affrontement de très nombreuses armées. L'armée rouge avec une république socialiste soviétique d'Ukraine créée à la fin 1918, mais évidemment appuyée sur le pouvoir russe soviétique. Des armées blanches anti-bolcheviques qui ont tendance à se concentrer sur les bords de la mer Noire. Et aussi et surtout des bandes d'insurgés paysans qui s'opposent à tous les pouvoirs qui tentent de s'installer en Ukraine. Et notamment en 1920, qui s'oppose aussi à la tentative d'installation d'un pouvoir polonais en Galicie et dans l'ouest de l'Ukraine, puisque la Pologne tente aussi de s'accaparer ces régions frontalières qui appartenaient auparavant à l'Empire austro-hongrois.
Alors, qui sont ces bandes de paysans qui, dites-vous dans un de vos textes, Thomas Chopard, et je crois même que c'est vous aussi qui le dites, Nicolas Werth, il vous cite en l'occurrence, qui s'apparentent à ces bandits tels qu'ils ont été décrits pour la période moderne, en particulier par Eric Hobsbawm, une sorte d'implantation de cette figure du bandit. Ce sont des bandes armées de 800 personnes, 5000 personnes parfois, qui parcourent la campagne. Que font-ils et contre qui se battent-ils, ces Verts, puisqu'on les surnomme les Verts en l'occurrence?
Alors ces Verts s'opposent surtout à toute forme d'intrusion de l'État, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, dans les campagnes, et notamment aux tentatives surtout de l'État soviétique, mais aussi des Blancs ou des nationalistes, de mobiliser les campagnes, de mobiliser les hommes et surtout de réquisitionner les grains, qui sont un des enjeux majeurs de la région et de cette époque. Et ces paysans insurgés, ces Verts, sont très localisés, ils sont issus du milieu paysan. Ils n'ont pas tendance à battre la campagne très largement, mais au contraire à se concentrer sur leur région d'origine. On en connaît un certain nombre parfois, notamment Makhno dans le sud du pays, ou Grigoriev. Autour de Kiev, les Atamans Zelieni ou Strouk sont aussi extrêmement connus à l'époque. Et ces paysans insurgés mènent littéralement une guérilla permanente à toute forme d'État dans la région.
Et avec quel projet ?
Alors les projets varient parfois, notamment on a tendance à assimiler Makhno à une tentative de projet anarchiste. Mais dans la plupart des cas, les revendications sont assez simples. Arrêt des réquisitions, maintien de la nouvelle répartition des terres qui avait été introduite avec la Révolution et surtout cessation de la mobilisation des hommes.
Et parce que c'est une des particularités de ce qui se passe dans cette région, c'est qu'effectivement, les paysans peuvent voir d'un bon œil, Nicolas Werth, l'arrivée d'une révolution soviétique qui va redistribuer les terres et qui, évidemment, va mettre fin au pouvoir des grands propriétaires, mais d'un mauvais œil, les réquisitions qui vont s'en suivre, parce qu'évidemment, cette armée rouge a besoin d'être ravitaillée, et donc, comme elle mène une guerre assez forte contre les armées blanches, eh bien, il faut toujours du ravitaillement, toujours plus de ravitaillement, et évidemment, ces paysans sont mis à contribution, en l'occurrence. Donc, l'ambiguïté, à la fois de soutenir au tout début, peut-être pendant quelques semaines ou quelques mois, une révolution qui arrive et qui redistribue les terres, et de l'autre côté, de la combattre parce qu'on fait des réquisitions dans leur village.
Oui, c'était tout le dilemme des paysans. Simplement, je voudrais souligner qu'à la différence aussi des autres régions de la Russie, quand même l'Ukraine a toujours été une région stratégique pour Moscou, du point de vue parce que c'est la région la plus riche. Et on assiste quand même en 1919 et à une tentative de reconquête, lorsqu'il y a une reconquête de l'Ukraine par l'armée rouge, il y a aussi une tentative de collectiviser un certain nombre de d'anciens grands domaines, donc parce que c'est une région absolument stratégique.
In extremis, un peu à la toute fin.
In extremis, oui, à la fin. Et donc, évidemment, les paysans s'opposent à la fois aux rouges et aux blancs. Simplement, les blancs vont être vaincus fin 1919, et donc ensuite, les grandes insurrections paysannes seront surtout contre le pouvoir rouge.
Anaïs Kien.
Mais finalement, l'Ukraine est perpétuellement victime de sa très, de la très grande fertilité de ses terres. Systématiquement, on s'empare de ce territoire avec une volonté de structurer la production agricole pour pouvoir en profiter. On est là vraiment dans un cas de victimisation par les richesses même de du territoire dont on parle.
Enfin, c'est une région stratégique. C'était stratégique pour les Allemands. Après Brest-Litovsk, ça a été stratégique pour les bolcheviks en 1919. Il y a ce problème économique qui est quand même central parce que il y a la Russie, enfin la région et l'Ukraine sont divisées entre des régions qui consomment et les villes, il faut ravitailler les villes, et puis des régions productrices. Et l'Ukraine était le type même de la grande région productrice.
Vous expliquez, Thomas Chopard, que dans cette période courte de cette guerre civile, d'ailleurs, on lui donne quoi comme terme à cette guerre civile, en l'occurrence, pour l'Ukraine ?
Bon, le terme de guerre civile est
généralement... Non, mais comme terme chronologique.
Ah, comme terme chronologique. Alors, les dernières insurrections ont lieu en 1923, mais... En réalité, le gros des combats s'achève au cours de la famine de 1921-1922.
Alors, donc, vous expliquez que les villes sont prises et reprises environ, pour certaines d'entre elles, une quinzaine de fois. C'est le cas de Kiev, c'est le cas d'Odessa. Et donc, évidemment, un coup, ce sont les Allemands, un coup, ce sont les Russes blancs, un coup, ce sont les Verts paysans, les bandes armées, un autre coup, ce sont les Rouges. Puis, à nouveau, ça rechange. Et cela, ça dure pendant plusieurs années. Donc, évidemment, on a des populations qui sont, mises à contribution par des conquêtes et reconquêtes successives qui les rendent qui les mettent dans une fragilité absolument extraordinaire, Thomas Chopin.
Et les grandes villes d'Ukraine sont d'ailleurs soumises à une forme de disette, voire de famine urbaine au cours de la guerre civile, puisque justement la succession de ces différents pouvoirs désorganise complètement l'économie, le mode de ravitaillement, et les paysans, dans leur affrontement avec l'État, ont tendance aussi à blâmer les grandes villes d'Ukraine, d'encourager ces pratiques extrêmement brutales de réquisition qui les touchent tout au long de la guerre civile.
Alors ça, il faut peut-être s'arrêter sur cela, parce que dans votre travail de thèse, vous insistez là-dessus, Thomas Chopin. Vous expliquez la désorganisation qui est liée à cette guerre civile, désorganisation des transports, bien évidemment, les chemins de fer ne conduisent plus là où ils devraient conduire, on ne peut plus emmener d'un bout à l'autre du territoire ukrainien les marchandises qui permettraient, là où il y a un tout petit peu de surplus, plus de permettre d'éviter une disette ou une famine à l'autre bout de l'Ukraine. Les commerçants et en particulier tout le réseau, le fin maillage, expliquez-vous, du territoire ukrainien par en particulier des commerçants juifs et des négociants juifs qui, dans les villages, étaient présents un peu partout, mais qui subissent régulièrement depuis la fin du 19e siècle des pogroms qui sont massacrés en nombre et évidemment pendant cette guerre civile qui vont l'être encore plus. Dès février 17, expliquez-vous, dès la première révolution russe, mais également en 1919. Tout cela conduit à une sorte de désorganisation complète du commerce, de la façon d'alimenter les villes et les village et au bout du compte, donc, à des disettes, voire à des famines.
Et il y a une famine à la fin 1921. Il faudrait aussi souligner, me semble-t-il, le poids très important quand même des réquisitions opérées par le pouvoir soviétique, qui, sans aller jusqu'au cas extrême de la Volga et des régions de la Volga en Russie, où là, pour le coup, le pouvoir soviétique a littéralement affamé les populations paysannes, en Ukraine, les paysans sont littéralement pillés par ces bataillons de réquisition. Et donc incapables de produire pour eux-mêmes et incapables d'obtenir des biens alimentaires par ailleurs, ils sont confrontés à la fin 1921 à une famine qui va faire environ 700 000 morts.
Anaïs Quin.
Peut-être qu'on peut s'arrêter, enfin revenir très brièvement sur cette période de 1919 où se produit cet équivoque, ce dont vous parlez, Mathieu Chopard, cet équivoque, ce malentendu entre bolcheviques et agriculteurs ukrainiens.
Alors j'emprunte l'expression à Andrea Graziosi, qui est un historien italien de l'Ukraine, et qui effectivement a bien souligné la façon dont pour les paysans, Nicolas Vert l'a rappelé à l'instant, le pouvoir soviétique est ambigu puisqu'il incarne tout à la fois le partage des terres de la révolution de 1917, et notamment le décret de la socialisation des terres de la fin 1917, mais aussi en 1919 un pouvoir communiste pour les paysans, qui se caractérise par effectivement un certain nombre de nationalisations de grandes exploitations et surtout par des réquisitions et par des bataillons de réquisition qui sont en plus généralement originaires des villes et qui sont donc issus des nationalités non ukrainiennes, surtout des Russes et des Juifs.
Et pourquoi cette année 1919 est-elle si importante pour cette période de l'Ukraine et cette région du monde, Nicolas Vert?
1919, c'est l'année du tournant dans le rapport de force. Bon, c'est la défaite des Blancs. Et donc, évidemment, ce point est quand même très important. Je voulais juste rebondir sur une autre question évoquée, évidemment, aussi par Thomas Chopard. C'est la question, au fond, l'Ukraine est divisée entre paysans ukrainiens, enfin, disons, dans les campagnes et dans les villes. On a une population beaucoup plus mélangée, beaucoup, donc, russes, des juifs. Et il ne faut pas oublier aussi, donc, ces terribles pogroms qui ont lieu et qui sont faits par toutes les parties en présence, que ce soit les Blancs, l'armée populaire ukrainienne, les Atamans et les paysans.
Alors, arrêtons-nous sur ce point des pogroms dans les villes en particulier, et dans les villages aussi. J'ai lu dans Daniel Beauvois que 54% des victimes de ces pogroms, donc c'est l'année, dit-il, de la plus grande férocité antisémite dans cette région, serait dû aux troupes mal contrôlées de Simon Petliura, dont on n'a pas encore évoqué le nom, en l'occurrence. Il faut peut-être expliquer qui il est. Puis ensuite, il y a les Russes blancs qui seraient responsables de 17% des meurtres de Juifs, l'armée autonome de Grigoriev de 11%, les bandes indépendantes, donc on met tout le monde dedans, une quinzaine de pourcents, etc., etc., et l'armée rouge, 2,3%. Qu'est-ce que c'est que ce calcul, justement, et comment peut-on savoir qui est responsable de quoi dans cette immense pagaille qu'est l'Ukraine de 1919, Nicolas Vert?
Je pense que ce calcul vient, sauf erreur de ma part, du livre des pogroms dirigé par Lydia Miliakova, qui a été traduit en français, paru aux éditions Kalman-Lévy en 2010. Bon, je pense que ces chiffres aussi précis sont un petit peu à prendre avec attention, bon, évidemment, mais ça donne un ordre de grandeur. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde s'est mis à cassé du juif, comme il disait, Pabit Jeda, et voilà, c'est donc ça qui est important.
Alors, on n'a pas évoqué ce nom de Petliura, qui compte dans la mémoire ukrainienne encore jusqu'à aujourd'hui, et qui a été longtemps un nom banni, parce que les soviétiques l'avaient rendu responsable de bien des choses. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur Simon Petliura, qui aujourd'hui encore dans l'histoire ukrainienne compte énormément? Qui est-il et pourquoi a-t-il cette importance? C'est un social-démocrate au départ?
Oui, au départ, mais ensuite, donc, c'est surtout le président de la République ukrainienne indépendante et son chef de guerre aussi, et donc le commandant des armées. On sait qu'il a été assassiné à Paris en 1926 par un jeune juif, Schwarzbart, qui voulait ainsi se venger des violences commises sur les juifs. On a dit aussi à un moment qu'il était manipulé par le GPU, etc. Bon, et le nom de Petliura est un nom honni en Union soviétique, notamment dans la période stalinienne, où tout nationaliste ukrainien est considéré comme un petliuriste, et au nom de ça, il y aura une terrible répression du mouvement national ukrainien dans les années 30.
Thomas Chopard, on voit bien qu'il est difficile de poser comme on voudrait le faire aujourd'hui, sur ce moment et cette région qu'est l'Ukraine à ce moment des années 1920, un regard apaisé, parce qu'évidemment chacun a son héros ou son anti-héros, et donc considère que soit c'est Makhno, soit c'est Grigoriev, soit c'est Petliura, soit ce sont les armées de Denikin pour ceux qui soutiennent les Russes blancs, etc., etc., soit Trotsky, l'armée rouge, Dzerzhinsky ou d'autres, en l'occurrence, et on a l'impression que c'est extrêmement compliqué, étant donné la mobilité, ce que vous décrivez, c'est une mobilité de l'histoire dans ces années, ces 3, 4, 5 années aux alentours des années 20.
Effectivement, chaque parti a aussi constitué cette période comme une période héroïque, c'était l'expression habituelle en Union soviétique, y compris l'émigration ukrainienne, y compris l'émigration russe par la suite. Et donc, au final, il faut bien voir, comme l'a dit Nicolas Werth à propos des pogroms antisémites, qu'au fond, cette guerre a été littéralement une sale guerre de pacification avec des affrontements extrêmement brutaux. Aucun parti ne s'en est vraiment tiré avec les honneurs, et cette héroïsation aujourd'hui en Ukraine de Petliura, mais en Russie de Denikin, le commandant en chef des armées du sud de la Russie, des armées blanches, ont tendance à mettre sous le tapis un certain nombre de faits, y compris de griefs que peuvent avoir des populations, les populations ukrainiennes par rapport aux Russes ou les populations juives par rapport à leurs anciens voisins.
Anaïs, qui a...
Oui, puis peut-être que ce qui reste difficile à saisir lorsqu'on connaît très mal l'histoire de cette région, c'est aussi le nombre de forces en présence, la multiplicité de ces partis, la multiplicité du coup des récits qu'on peut faire de ces années-là.
Nicolas Werth.
Oui, multiplicité, parce que évidemment, encore une fois, je pense que on ne doit pas mettre le terme de guerre civile au présent, mais toujours guerre civile au pluriel, parce que c'est un affrontement multiforme avec des enjeux économiques, politiques, nationaux, qui rendent ce tumulte absolument unique, je pense, quand même, dans cette histoire en Europe, du premier tiers, en tout cas, du XXe siècle.
Oui, parce que si on descend au ras de ce qui vous intéresse, Nicolas Werth, c'est-à-dire ce qui vous intéressait, on en parlera tout à l'heure à propos de la grande famine, c'est-à-dire si on descend au niveau d'un Ukrainien qui voit arriver, puis repasser telle armée, telle autre armée, etc., on s'aperçoit que c'est absolument impossible de s'y retrouver. Quel processus, quel mode d'action peut-il mettre en œuvre, ou cette Ukrainienne, à ce moment-là, face à ces bandes armées multiples, ces armées qui se courent les unes derrière les autres pendant plusieurs années, et qui prennent et reprennent les villages et les villes, en l'occurrence? Un mode de sauvegarde.
Mode de sauvegarde sur le mode des milices, au fond, tenter de sauvegarder le local,
survivre.
De survivre au niveau local. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est de voir, par exemple, que dans les quartiers à Kiev, j'ai parlé avec un ami qui était à Kiev il y a quelques temps, bon, il vit de l'autre côté du Dniepr à Kiev, et bien, il m'a dit, bon, voilà, on a des milices d'autodéfense en ce moment, les gens du quartier qui se connaissent et qui s'organisent pour éviter les pillages et tout ce qui... Mais aussi fantasmer peut-être, mais
oui.
En tout cas, voilà, ce mode de...
Vous voulez dire que ce qu'on entend dire sur l'actualité peut prendre racine dans cette période très complexe des années 19-20, justement, dans une sorte de mémoire lointaine de l'idée qu'il faut se défendre de tout... Regardez-vous à gauche, regardez-vous à droite, quoi.
En tout cas, quand il y a une dissolution de l'État et des troubles, c'est un réflexe, je pense, qui n'est pas limité d'ailleurs forcément à l'Ukraine.
Thomas Chopin.
Oui, c'est vrai qu'il y a un éventail d'attitudes possibles vis-à-vis de tous ces États qui est extrêmement large. Alors, soit à l'extrême, si je puis dire, s'opposer à tous avec effectivement des milices et des organisations armées, soit au contraire, dans un certain nombre de cas, d'essayer de tous les apaiser. J'ai en tête un souvenir d'un petit village qui, voilà, en plein milieu de l'année 1919, pavoise la place du village des portraits d'un tsar, de Lénine et du poète national Chevtchenko tout à la fois, en espérant que dans ce cas-là, aucun ne viendra vraiment leur demander des comptes. Et voilà, essayer de... Je pense que l'attitude générale est d'essayer de passer au travers de ce chaos de la guerre civile.
Alors, un chaos dont vous nous avez juste dit tout à l'heure qu'il y avait à la sortie de cette guerre civile 800 000, c'est ça ?
700 000.
700 000 morts de faim, donc dans une famine de 1921-1922. Vous voulez peut-être, Nicolas Werth, disons, rendre cette famine un peu distincte d'une autre famine qui est plus forte encore du côté de la Volga, qui ne concerne donc pas l'Ukraine, mais néanmoins c'est quand même un exemple de famine considérable. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Nicolas Werth?
C'est une famine quand même très complexe, je dirais. C'est une famine de sortie de guerre, de sortie de guerre civile, où la part des réquisitions du côté rouge est quand même considérable. Mais les mécanismes sont beaucoup plus complexe, je dirais encore, que donc celle de la famine suivante de 32-33. Parce que là, il y a plusieurs strates d'éléments qui s'accumulent pour expliquer cette terrible famine de 21-22. Elle n'est pas uniquement due aux réquisitions.
Il y a aussi des désorganisations.
Et puis, véritablement, dévastation complète de cette région à la suite de quatre années de guerre civile et d'affrontements variés.
Thomas Chopin, sur ce point.
Oui, il faudrait aussi souligner la sécheresse qui frappe toutes ces régions de grande production, des terres noires autour de la Volga et de l'Ukraine, qui joue aussi, voilà, effectivement, sur tous ces facteurs se combinent pour ouvrir sur la famine. Mais contrairement à la famine de 32-33, pour le coup, le pouvoir soviétique tente d'organiser une aide internationale et de se porter au secours des paysans et des villes affamées. Alors, la désorganisation est telle que l'aide peine parfois à arriver, mais il y a une attitude en tout cas de l'État soviétique face à cette famine qui est très différente de celle de 32-33.
Est-ce qu'on invente déjà, on a déjà inventé la Tchéka par exemple, et tout ce qui va se mettre en place sous le pouvoir soviétique, la bagarre contre les contre-révolutionnaires, contre les saboteurs, contre tous ceux qui sont supposés donc empêcher la révolution d'avancer, est-ce que ça a des influences justement dans cette région d'Ukraine au moment de cette famine de 1921-1922, en l'occurrence, Thomas Chopin?
Effectivement, la police politique naît en même temps que le pouvoir soviétique et elle a mis en place au cours de la guerre civile des pratiques de répression paysanne vraiment très standardisées et structurées, très fortes, très brutales. Et au moment de la famine, la police politique est déjà un agent très important de l'État soviétique.
Alors on écoute une archive qui nous replonge à l'époque où de grands intellectuels, Henri Barbus en faisait partie, alors que nous racontons cette année le début de la guerre de 14, son grand livre Le Feu avait beaucoup marqué toute une génération d'après la Première Guerre mondiale. Henri Barbus, donc, se rendant en Ukraine, faisait cette déclaration. Malheureusement, nous n'avons pas pu retrouver la date exacte de cette déclaration. Si un auditeur le sait, et peut-être vous, Nicolas Werth, la connaissez-vous, on aura une précision plus tard, après cette émission. On écoute cette déclaration d'Henri Barbus, donc, dans les années 30, en Ukraine.
Camarades, c'est l'État socialiste, ce ne peut être que l'État socialiste qui construit à présent les merveilles du monde. Depuis des semaines, j'ai vu dans notre patrie soviétique, qui est la moitié de l'Europe et la moitié de l'Asie, d'immenses transformations et des réalisations magnifiques. Aujourd'hui, voici devant nous l'œuvre gigantesque du dieu Progrès, qui montre, qui mesure la grandeur et la puissance de la foule qu'il a édifiée. Ici, la transformation est d'ordre continental, elle est d'ordre géographique, elle change la face de la carte du vieux monde. On est ébloui par l'énormité des choses, par l'énormité des chiffres. On se trouve en présence d'une œuvre gigantesque, d'une sorte de féerie logique et raisonnée de la terre et de l'eau, de la machine et de l'électricité. Le vieux sol de l'Ukraine, qui a été naguère si profondément bouleversé par la guerre, par le désordre de la guerre, est maintenant plus profondément remué encore par l'ordre socialiste.
Alors que se passe-t-il dans cet ordre socialiste décrit de façon très enlevée par Henri Barbusse pour que justement l'énormité des choses et l'énormité des chiffres puissent conduire en 1932-1933 à ce qu'on a appelé la grande famine en Ukraine? Nicolas Werth, qu'est-ce qui se passe entre cette famine de 1922 qu'on vient de décrire, donc moins centralisée sur le territoire ukrainien que celle de 1932-33 et celle-ci de 1932-33?
Il se passe l'événement majeur qui est la collectivisation forcée des campagnes, c'est-à-dire au fond une véritable guerre déclarée par le régime stalinien contre la paysannerie.
Ça commence quand ça?
Ça commence fin 29, c'est le grand tournant, bon, dans un contexte très particulier qui est donc d'abord de collectiviser les terres pour dégager des surplus qui allaient devoir permettre l'industrialisation à marche forcée du pays. Donc il fallait lever une sorte de tribu en nature sur les paysans qui jusqu'alors commercialisaient fort peu de produits et consommaient pour eux-mêmes.
Dans un contexte où, en Ukraine, on est devant un paysage fait essentiellement de toutes petites propriétés, de micropropriétés, qui sont finalement très difficiles à centraliser pour lever facilement ce tribut.
Oui, ce n'est pas seulement en Ukraine, c'est valable pour l'ensemble du système agricole soviétique, si on peut dire. Simplement, l'Ukraine, encore une fois, est la région la plus riche et donc stratégiquement la plus importante. D'ailleurs, la collectivisation complète était dirigée en premier lieu, et de manière la plus urgente, vers les zones les plus riches et les plus productives. L'Ukraine, mais pas seulement, les régions de la moyenne et de la basse Volga, la région centrale des Terres Noires, etc. Donc, ce sont des régions, encore une fois, économiquement et d'un point de vue agricole absolument stratégique. Donc, ce sont là, sur celles-ci, que va porter le plus l'effort de collectivisation le plus rapide et accompagné, évidemment, de mesures répressives contre tous ceux qui s'opposent à la collectivisation qu'on nomme Koulak, mais cette étiquette recouvre un spectre extrêmement large de gens qui ne veulent pas de la collectivisation forcée des campagnes.
Alors, j'ai cru comprendre en lisant Thomas Chopard que un certain Latsis, qui était le chef de la Tchéka ukrainienne au tout début des années 20, donc se voit envoyer des remontrances entre guillemets par Lénine au tout début des années 20, qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe exactement, etc. Il dit on est en train de mettre en place, il faut empêcher justement ces paysans d'empêcher la production et surtout de la répandre pour que l'Union soviétique puisse grandir. Qu'en est-il à la fin des années 20? Ces paysans sont-ils si réticents que cela? Est-ce que c'est la propagande soviétique qui le dit ou est-ce qu'il y a effectivement un processus d'autocontrôle de ces paysans pour éviter qu'il y ait des surplus, pour faire en sorte qu'au bout du compte, on ne puisse pas venir réquisitionner trop de leurs biens?
À l'époque, il ne s'agissait pas de réquisitionner, mais justement, il y avait une ébauche de marché, avec des contraintes, bien sûr, mais sous la NEP, sous la nouvelle politique économique instaurée par Lénine en 21 et qui, au fond, est un compromis avec la paysannerie, il y avait donc une ébauche de marché et les paysans ne voulaient pas vendre parce que les termes de l'échange leur étaient extrêmement défavorables, avec des produits manufacturés de plus en plus chers et des produits agricoles qui, dans ce faux marché de la NEP, étaient vendus à vil prix.
Et à la fin des années 20, qu'en est-il?
Alors, à la fin des années 20, Staline et son groupe qui l'emportent sur les autres fractions, notamment sur la fraction de Bouharine, emmenée par Bouharine, qui ne voulait surtout pas de cette collectivisation à marche forcée. Donc cette victoire politique de Staline se marque par un assaut contre la paysannerie et une collectivisation à marche forcée que Lénine avait abandonné, enfin, dont il avait abandonné l'idée face à l'opposition de la paysannerie, notamment fin 1920, début 1921.
Et comment réagissent-ils à cette collectivisation, ces paysans qu'on va traiter donc de Koulak?
Eh bien, par un très grand nombre d'émeutes, de manifestations de masse, près de 14 000 pour la seule année 1920. 30 selon les calculs faits par la police politique, mais avec une différence fondamentale par rapport à la période analysée par Thomas Chopard de la guerre civile, c'est qu'ils ne sont plus armés, ils n'ont plus d'armes en circulation comme dans les années de la guerre civile.
Alors,
donc, la résistance sera très facilement brisée.
J'ai dit en tout début de cette émission que vous aviez donc raconté dans une collection de livres qui s'appelle De vive voix, de livres donc sur disque, CD, cette grande famine en Ukraine. Nous en avons tiré quelques extraits, quelques lectures, en particulier par Catherine Jarrette. On écoute les instructions données par le chef de la police politique ukrainienne à ses subordonnés. Nous sommes entre janvier et juillet 1933 en Ukraine.
N'informer sur les questions relatives aux difficultés alimentaires que les premiers secrétaires des comités régionaux du parti, et ceci uniquement par voie orale, après vérification scrupuleuse des faits rapportés. Ceci, afin d'éviter que des notes manuscrites sur le sujet ne se promènent dans les appareils, devenant ainsi source de divers bruits et rumeurs.
Voilà la difficulté, c'est qu'effectivement pour l'historien, comment remonter dans cette histoire de la grande famine en Ukraine, alors que ceux même qui la déclarent ou qui la mettent en place, en tous les cas, les chefs de la police politique décident de taire justement cette mesure aux yeux du grand public.
Eh bien heureusement, comme ça se passe souvent dans le fonctionnement du système, les mesures ne sont pas toujours appliquées et Dieu merci, pour l'historien, on a quand même pas mal de rapports de la police politique, mais pas seulement, des comités exécutifs, de soviets, de comités du parti, sur ce qui se passe pendant la famine, et surtout, bien sûr, les correspondances entre Staline et ses plus proches collaborateurs, notamment Kaganovitch, qui permet de voir ce que Staline et ses plus proches collaborateurs savaient de la famine et les mesures qu'ils prenaient pour, dans le cas de l'Ukraine en particulier, à partir d'un moment, aggraver la situation et utiliser la famine comme arme de la faim contre les réticences de la paysannerie à accepter le nouvel ordre collectif.
Anaïs.
Oui, parce qu'on va enterrer cette tuerie de masse indirecte jusque dans les années 80. Je crois que les Ukrainiens ne l'évoquent à nouveau qu'en 1987, il me semble, Nicolas Vert. Donc le chemin est très long jusqu'à ce qu'on retrouve cette histoire et également les sources qui viendront un petit peu plus tard pour pouvoir la traiter par les historiens.
Oui, c'est une des grandes caractéristiques de cette famine. Thomas Chopard rappelait que celle de 1921-22 était internationalement connue et reconnue par le régime soviétique qui appelle à l'aide, et avec l'aide en particulier de l'American Relief Association, de l'ARA, tandis que la famine de 1932-33 est cachée et tue, et même Khrushchev, dans son rapport au 20e congrès en février 56, ne parle pas de la famine.
Il faut dire que Khrushchev, il a la particularité d'avoir été partie prenante de cette histoire, autant que je sache.
Surtout de la grande terreur de 37-38. Bon, pour la famine, c'est un peu moins évident, mais c'est une des particularités, bien sûr, c'est-à-dire le silence autour de ce crime de masse.
Dans ce livre Voix, donc, de vive voix, que vous avez composé, Nicolas Vert, il y a la lettre d'un certain Cholokov à Staline et la réponse de Staline à Cholokov. Vous nous présentez Cholokov avant d'entendre cette lettre, justement.
Oui, Cholokov, c'est un des grands écrivains du réalisme socialiste, mais c'était aussi il était d'origine paysanne et il s'était aussi un habitant d'une stanitsa cosaque, d'un grand bourg cosaque, et il a écrit donc à Staline en mai 1933 cette lettre où il évoque la terrible famine et les exactions terribles des détachements au moment de la famine.
Alors on a la lettre de Cholokov à Staline et on a tout de suite après la réponse de Staline à Cholokov.
Voici les méthodes employées au cours de l'hiver dernier pour obliger les kolkhoziens à remplir le plan de collecte. La méthode du froid. On déshabille le kolkhozien et on l'enferme au froid, tout nu, dans un hangar. Souvent, on met au froid les kolkhoziens par brigades entières. La méthode du chaud. On arrose les pieds et les rebords des jupes des colcosiennes de kérosène et on y met le feu. Puis on l'éteint et on recommence. Dans le kolkhoz Napolovski, un certain Plotkin, plénipotentiaire du comité du district, forçait les kolkhoziens à s'allonger sur un poêle chauffé à blanc, puis il les déchauffait en les enfermant nus dans un hangar. Dans le kolkhoz Lebiagensky, on alignait les kolkhoziens le long d'un mur et on simulait une exécution. Je pourrais multiplier à l'infini ce genre d'exactions. Ce ne sont pas des abus, non. C'est la méthode courante de collecte du blé. S'il vous semble, camarade Staline, que ma lettre est digne de retenir l'attention du comité central, envoyez donc ici de véritables communistes. Vous êtes notre seul espoir. Cher camarade Cholokov, j'ai bien reçu vos deux lettres. L'aide que vous avez demandée a été accordée. Je vous remercie pour vos lettres qui révèlent une petite maladie de notre appareil et qui montrent qu'en voulant bien faire, c'est-à-dire désarmer nos ennemis, certains de nos fonctionnaires du parti s'en prennent à nos amis et peuvent même devenir franchement sadiques. Mais ces remarques ne signifient pas que je sois d'accord en tout avec vous. Vous voyez un aspect des choses et vous ne le voyez pas mal, mais ce n'est qu'un aspect des choses. Pour ne pas se tromper en politique, et vos lettres, ce n'est pas de la littérature, c'est de la pure politique. Il faut savoir voir l'autre aspect de la réalité. Et l'autre aspect, c'est que les respectés laboureurs de votre district, et pas seulement du vôtre, faisaient grève, faisaient du sabotage, et étaient prêts à laisser les ouvriers et l'armée rouge sans pain. Le fait que ce sabotage était silencieux et apparemment pacifique, sans effusion de sang, ce fait ne change rien au fond de l'affaire, à savoir que les respectés laboureurs menaient une guerre de sape contre le pouvoir soviétique. Une guerre à mort, cher camarade Cholokov.
Une lettre de Cholokov à Staline et du camarade Staline à Cholokov, lue par Catherine Jarrette dans votre ouvrage donc sur disque, Nicolas Werth, La grande famine en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu Cholokov d'ailleurs après avoir osé interpeller le camarade Staline?
Il n'a pas eu trop d'ennuis. Il a continué à être membre de l'Union des écrivains, de l'Union soviétique.
Et alors donc, il dénonce ce qu'il voit. Ça nous permet de savoir ce qui se passait. Mais évidemment, Staline lui dit, ce sont quelques exemples isolés. Et de toute façon, il faut bien faire un exemple pour pouvoir remettre ces gens dans le droit chemin, en l'occurrence.
Oui. Staline, au fond, dit le fond des choses. C'est-à-dire qu'il considère que les paysans qui ne remplissent pas le plan de collecte démesuré qui conduit évidemment à la famine, au fond, sont des gens qui résistent et qu'il faut mater. Voilà, tout simplement, c'est le fond des choses. Et la particularité de la famine, notamment en Ukraine, à partir de l'automne 1932, c'est que Staline a décidé d'utiliser l'arme de la faim pour briser définitivement les résistances. Résistances non seulement des paysans, mais également d'un très grand nombre de membres du parti, voire de cadres du parti, qui se rendent compte de la situation, qui savent que remplir le plan, c'est condamner des millions de gens à la famine, et qui refusent de remplir le plan. Et là, c'est une des particularités de la situation en Ukraine, c'est qu'il y a une opposition non seulement des paysans, mais des cadres du parti, de l'intelligentsia, etc. Et c'est ce mouvement la famine et les répressions qui vont parallèlement avec la famine, il y a plus de 150 000 personnes arrêtées à la fin 32, début 33 en Ukraine, qui constituent au fond le fond de l'affaire.
Donc on ne peut pas dire, selon vous, Nicolas Werth, que c'est juste la conjoncture qui a conduit à cette grande famine, mais c'est un plan concerté de la part de Staline ou pas? Alors, parce que non, vous savez qu'il y a des oppositions chez les historiens.
Plan concerté, attention, c'est pas une question de plan concerté. L'affaire est quand même très complexe parce qu'il ne faut jamais oublier que la famine a touché d'autres régions dans l'Union soviétique.
À
la même époque. Il y a la famine au Kazakhstan qui est absolument terrible et en nombre, en pourcentage de la population qui disparaît, qui meurt de la famine, le Kazakhstan, c'est pire que l'Ukraine, puisqu'il y a à peu près 1,4 million Kazakhs sur moins de 4 millions qui meurent, qui disparaissent.
On n'a pas encore dit pour l'Ukraine, combien ?
Alors, en Ukraine, les historiens sérieux, et aujourd'hui les démographes, considèrent qu'environ 3 millions et demi, entre 3 millions et demi et 4 millions meurent au moment de la famine. Je rappelle que l'Ukraine est un pays qui, à l'époque, à peu près, avait la même population que la France, même superficie, même population, autour de 35 à 40 millions. Donc, c'est à peu près 10 à 12% de la population qui meurt en 8 mois, avec une intensité absolument extraordinaire. Ça veut dire 15 000 personnes par jour qui meurent pendant 8 mois. Je rappelle ce seul fait, en France, pendant la Grande Guerre, c'est 900 personnes par jour qui meurent. Donc on a une intensité absolument extraordinaire de la famine. On est avant la Seconde Guerre mondiale, donc l'acmé de la violence de masse, c'est la Première Guerre mondiale. Et là, on a un phénomène tout à fait unique, court, entre janvier et août 1933, c'est 15 000 morts par jour.
Anaïs Kien.
Oui, le Parlement ukrainien a déclaré le génocide, a reconnu le génocide. Il est le seul d'ailleurs, enfin, les historiens sont très partagés sur cette question, mais les Nations Unies ne l'ont pas reconnu.
Cette 15 question pays, est tout à 15 fait... pays l'ont reconnu, mais les Nations Unies n'ont pas reconnu. C'est une question extrêmement complexe que je laisse aux juristes. Je rappelle simplement ici que Raphaël Lemkin, le père du concept de génocide, dans un texte récemment publié qu'on ne connaissait pas de 1953, qualifiait ce qui s'est passé en Ukraine de 32-33 de génocide. Mais bon, ça, laissons la question aux juristes. Les historiens doivent essayer de comprendre l'enchaînement des faits, l'enchaînement politique qui a conduit à partir d'un certain moment, à une aggravation que je qualifie, moi, d'intentionnelle de la famine en Ukraine par rapport à d'autres famines comme celle du Kazakhstan, parce que le Kazakhstan n'était pas un problème politique pour Staline. Tandis que l'Ukraine, on le sait, d'après la correspondance de Staline avec ses plus proches collaborateurs, est un problème politique. Le Kazakhstan ne l'est pas. On peut dire qu'au Kazakhstan, on a une famine par négligence, enfin comme ces famines coloniales ou semi-coloniales, dues bien sûr à une politique de sédentarisation forcée, de collectivisation du cheptel. Mais en Ukraine, on a quelque chose de différent à partir de l'automne 32, pendant un court moment, mais un moment décisif.
Thomas Chopard, vous avez travaillé sur une question qui est particulièrement douloureuse à propos de ce qui se passe en Ukraine dans ces années-là, sur la question, et Nicolas Vert a travaillé dans un livre sur cette question-là aussi, sur la question du cannibalisme. C'est-à-dire que vous tentez de comprendre comment s'enchaîne le mécanisme qui va aller de la volonté de manger ce qui est ignoble, d'une certaine façon, d'abord les nourritures que l'on ne se procure pas habituellement, puis ensuite les animaux que l'on ne se procure pas habituellement, puis les chevaux, dans un contexte évidemment où l'attraction animale et le cheval et le plus proche compagnon de l'homme vont être mangés ensuite en dernier, et puis ensuite la nécrophagie, donc les cadavres de ceux qui meurent commencent à être mangés, et peut-être même plus loin encore, le cannibalisme, c'est-à-dire tuer des gens volontairement pour pouvoir survivre dans un contexte d'immense famine. C'est un processus qui est difficile de dénouer, pourrait-on dire, Thomas Chopard, à distance. À partir de quels documents travaille-t-on et comment peut-on mieux comprendre ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors, c'était effectivement une façon pour moi d'entrer dans cette société ukrainienne en crise au moment des famines. Et pour ça, en fait, la documentation aujourd'hui est littéralement pléthorique, puisque la plupart des centres d'archives ukrainiens ont publié de très nombreux documents. Et on peut aujourd'hui travailler tant sur les archives du parti que sur celles de la police politique, qui ont comptabilisé, parfois même de façon très bureaucratique et très froide, ces cas de cannibalisme en Ukraine. Et certes, les hauts responsables ukrainiens ont tendance à minorer, en tout cas à euphémiser dans leurs propos la famine en Ukraine.
Les hauts responsables ukrainiens de l'époque
ou... De l'époque, oui, de l'époque. Du parti communiste a tendance à parler de difficultés alimentaires, de choses comme ça, y compris entre eux, alors qu'à l'échelon littéralement local, comme le rappelait Nicolas Vert, le parti ou les soviets locaux ont, pour le coup, peignent une Ukraine peuplée de cannibales, où la famine est littéralement omniprésente et où les conditions de vie sont mortifères pour toute la population.
Nicolas Werth, vous qui avez travaillé dans l'île aux cannibales, sur des cas de cannibalisme en Sibérie occidentale en l'occurrence.
Oui, c'est un sujet extrêmement douloureux parce que lorsqu'on lit les rapports bureaucratiques, on a l'impression que ces gens bien nourris qui vont faire des tournées dans les villages affamés se délectent à raconter les mœurs sauvages et cannibales d'une population de dégénérée et de sauvages. Il faut bien voir aussi que au moment où des millions de gens mouraient de faim, il y avait des gens qui étaient fort bien nourris et qui faisaient ces tournées d'inspection. Donc, à lire ces documents, on a une sorte, enfin moi personnellement, d'effroi, de gêne, de répulsion. Et je sais aujourd'hui que un peu tendance parfois à faire en Ukraine, tous ces recueils de documents sur le cannibalisme ou en Russie, ça a quelque chose, je trouve, d'un peu malsain.
Mmh. Et donc, il faut à la fois en tenir compte, mais ne pas surinterpréter ou exagérer ce phénomène. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Nicolas Werth ?
Non, ça c'est simplement c'est le processus même de raconter ces détails que je trouve très dérangeants.
Thomas Chopard ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour tout dire, au début, personnellement, je ne voulais pas y croire. Et c'est finalement confronté aux documents que j'étais obligé de constater l'ampleur du phénomène en Ukraine en 1933. C'est des milliers de cas recensés par la police, malheureusement. Et ça permet surtout de voir effectivement la longue dégradation des conditions de vie et notamment le rôle que la police politique a pu jouer dans la dégradation de ces conditions de vie.
Nicolas Werth, demain, on continuera par une autre période extrêmement douloureuse pour cette région d'Europe du centre-est qu'est l'Ukraine, en l'occurrence, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que cette période qu'on vient d'évoquer brièvement avec Thomas Chopard et vous, depuis le début de cette émission, cette période qui court des années 1919 à 1933 et à la Seconde Guerre mondiale, est une période importante, décisive pour la mémoire de ce qui s'est passé et la façon dont les gens vivent leur vision du monde d'une certaine façon?
Évidemment, c'est une période absolument clé et d'abord très importante pour la période de la guerre, parce que il y a quand même un mythe fort qui émerge de cette période. C'est un mythe terrible, c'est le mythe du judéo-bolchevisme qui est celui par lequel la population martyre paysanne peut penser que tout le mal vient soit de ce qu'ils appellent des moscalis, des gens de Moscou, soit aussi des juifs, parce qu'on associe bolchevisme et juifs, dans la mesure où il est naturel qu'un grand nombre de responsables de la police politique à ses débuts et du parti communiste étaient des juifs, dans la mesure où les juifs étaient eux-mêmes la minorité, une des plus persécutées sous l'ancien régime tsariste. Et donc on a là tout un nœud qui va avoir son importance grande au moment de l'occupation allemande et de la participation aussi des Ukrainiens, d'une partie des Ukrainiens à la Shoah. Évidemment, cette période des années 20-30 est absolument fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, elle joue un rôle? Oui, aussi, parce qu'il y a aussi tout le mythe de la grande résistance et du national porté par Stepan Bandera et d'autres qui se sont ralliés partiellement aux nazis. Donc, c'est donc une histoire, un nœud extrêmement présent, extrêmement complexe,
jusqu'à aujourd'hui. Merci Nicolas Werth. Si on veut en savoir plus, on peut évidemment lire, entre autres, L'île aux cannibales, ou encore tous vos travaux sur l'histoire de l'Union soviétique, c'était en 1995, ou encore écouter ce disque, donc La Grande Famine en Ukraine. Et puis Thomas Chopard, on espère lire bientôt votre ouvrage tiré de votre thèse. C'est pour bientôt, j'imagine ?
C'est pour la rentrée, j'espère.
Voilà. Merci en tous les cas à tous les deux d'être venus nous éclairer sur cette période des années 20 et 30 de l'histoire de l'Ukraine. On continue, comme je l'ai dit, demain autour de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Claire Maillot, Aurélie Marcet et Marie-Vonne Bolivier. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, et à la réalisation, Séverine Cassard.